Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un Masque et la plume consacré en ce 12 août à l'actualité littéraire avec les travailleurs de la mer, la navigatrice Olivia de Lamberterie, Duel, l'italienne Patricia Martin, des petits matins du week-end de France Inter avec le Lot et Garonnais Jean-Claude Raspienjas de La Croix et avec le Biarro Frédéric Becbédé du Figaro Magazine pour parler notamment du dictionnaire amoureux de la mer, du Tour de France par deux enfants, d'un mariage anglais, de l'été où tout arriva et puis des contes de Margaret Atwood, soit quand même, j'ai fait le calcul, la bagatelle de 2410 pages.
Merci du cadeau.
Oui, mais comme vous êtes très bronzé, j'ai l'impression, par le soleil du mois d'août, que vous n'avez pas tout lu. Dans le courrier de la semaine, Madame Lapradura ajoute son point de vue aux nombreuses lettres reçues à propos de la retraduction de 1984 de George Orwell par José Camoun chez Gallimard, même si je suis heureuse que son travail remette en lumière le livre d'Orwell, j'ai une nette préférence pour la traduction d'Amélie Audiberti, qui datait des années 50, que je trouve plus simple, plus fluide, moins recherché et plus au service du texte anglais. Maxime Léveillé de Saint-Pierre-du-Mont s'est délecté avec Fermouche, court roman de Vincent Almendro chez Minuit, qu'on avait d'ailleurs loué au masque. Et regrette qu'Arnaud Vivian en ait raconté la fin. Voici un livre dont la beauté réside dans le minutieux travail de l'auteur pour entretenir l'ambiguïté jusqu'au bouquet final. Si j'avais entendu les propos d'Arnaud avant de le lire, tout l'intérêt du roman en aurait été gâché. Nicolas Mouton d'Argenteuil considère que l'été est l'occasion de rattraper les injustices faites à de beaux livres qui n'ont pas eu la grâce d'une presse volumineuse. Et lui, il nous conseille aux auditeurs de se plonger, je ne sais pas si vous l'avez lu, dans un bijou de littérature, « Tous les âges me diront bien heureuse », premier roman d'Emmanuel Caron chez Grasset. Vous l'avez lu ce livre, non ? Très fine réflexion, selon Nicolas Mouton, sur le mal s'abattant sur le corps des femmes et sur plusieurs générations, qui révèle un style d'une grande musicalité auquel les lecteurs du Masque et la Plume ne pourront qu'être sensibles. Enfin, Christine Calvet nous remercie, cher Masque. Voilà 40 ans que vous fleurissez mon jardin secret. Je suis né à la campagne dans le sud de la France, dans une maison laborieuse et triste, où seule une petite radio assouvissait mon envie de mots, d'images. Je suis une des 14 voix interrogées par Olivia Rosenthal dans son recueil « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre non plus, chez Vertical. Et je me dois de vous remercier de tant de coups de cœur, de tant d'émotions et de rires en écoutant vos critiques. Et que seraient mes dimanches soirs sans mes petites fâcheries? Comment Olivia de Lamberterie, dont je partage les goûts, a pu dénigrer la brosse à dents rechargeable lors de la critique de l'écologie en bas de chez vous? Oui, Olivia, j'utilise ces brosses à dents ou mes indulgences. Comment ne pas pardonner tout excès à Xavier Le Herpeur, fervent adorateur comme moi de Hong Sang-soo et sans vous, Jérôme, homme orchestre de cette symphonie en joie majeure, ce qui est quand même assez joli. Merci, merci, merci. On commence avec Yann Kefelec, prix Goncourt 85 pour Les Noces Barbares, qui publie donc ce dictionnaire amoureux de la mer chez Plon, 670 pages. L'ancien élève à 16 ans d'une école de voile de l'île de Groix, aujourd'hui âgé de 68 ans, il parle de sa chère Bretagne, bien sûr, de Belle-Île-en-Mer, de Tabarly, Kersauzon, Loïc Perron, Florence Artaud, Alain Colas, mais aussi Hugo, Valérie Conrad, Melville, Bernard Giraudot, et puis aussi son père, l'écrivain Henri Kefelec, qui ne l'a pas vraiment encouragé à écrire, et bien sûr de la pollution dont les hommes, ces grands prédateurs, sont coupables, surtout, paraît-il, en mer Baltique, qui serait une vaste poubelle. C'est un dictionnaire où j'ai remarqué qu'il y avait une entrée bikini, t'as vu ça, Olivia ? Bikini, qui est quand même très lyrique. Hein. Ce livre dit la mer et les marins, les écrivains, les travailleurs du grand métier, les artistes charmés, charmeurs, les damnés du poisson. Les damnés du poisson. Il dialogue avec l'univers par-dessus les jours et les flots. C'est un coquillage où l'on entend battre le pouls du verbe aimer, etc., etc. Et j'ai lu d'ailleurs, ça c'est pour l'anecdote, une interview de Kefelec dans le magazine Lire. On lui demande comment il écrit. Il dit toujours au stylo. Et la réponse, quand même, je vous la livre, elle est géniale. J'écris toujours à la main, dit Yann Kefelec, sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour, dans la plus ancienne papeterie de Chine. C'est toujours un cargo rouge mystérieux qui achemine ces fameux cahiers en Europe. Non, mais il faut le faire quand même. Si c'est vrai, il faut le faire. Bon, alors, vous avez, Olivia, toi qui es une marine, on dit une marine, non, un marin.
Disons-le. Hein, moi qui suis une marine, je suis heureuse. C'est vrai que c'est un livre qui est très lyrique. C'est un livre qui est à la fois le dictionnaire de la mer, M-E-R, mais aussi le dictionnaire de la mer, M-E-R-E. Moi, ce qui m'a touchée, c'est cette mer qui est très présente, dont il apprend la disparition d'une manière dingue lorsqu'il est, il a 18 ans, 20 ans, et il répond au téléphone à la place de sa mère, de son père, pardon, et il entend « Votre femme est morte ». Et là, son père lui arrache le téléphone, l'hôpital veut lui donner des détails, c'est absolument cruel. Et on découvre que c'est à cause de la disparition de sa mère, M-E-R-E, qu'il a envie vraiment de la mère, M-E-R. Et après, il y a une histoire terrible, il fait des économies pendant des mois, il économise, il a une enveloppe Kraft dans laquelle il a 6000 francs de l'époque, il va au salon du bateau pour s'offrir son premier bateau, il tombe sur un stand, il y a un bateau qui ressemble pas à grand chose, il y a juste une coque, le gars lui fait visiter le bateau en 3 minutes en lui disant ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est la sortie, hop, il donne son enveloppe et le soir même, évidemment, le stand a disparu. C'était un escroc. Et il parle des larmes amères qu'il
pleure. N'empêche qu'avec son prix Goncourt, il s'est offert
un très beau bateau. Après, il a pu s'offrir des très belles voitures. Moi, j'ai découvert dans une interview, pas dans Lire, mais dans Le Monde, qui donne à Annick Cojan, une interview absolument dingue, où il parle de son père qui lui disait « Tu sais que tu t'es trompé de famille ?» Et il raconte qu'il a appelé son père pour dire qu'il avait eu le prix Goncourt. Son père lui dit « Oui, je sais, la femme de ménage m'a averti. » Il racontait que son père n'aimait que son frère, et qu'il partait en voyage en train. Il y avait le père et le frère en première dans des wagons-restaurants et tout le reste de la famille en seconde qui mangeait du saucisson. Et il allait finir les verres.
On en rajoute un peu quand même.
Peut-être, mais tout ça est romanesque. Bon.
Enfin, voilà. T'as aimé. Frédéric.
Adoré le portrait de Kersauzon. Parce qu'en fait, j'adore Kersauzon. Oui. Je suis folle de Kersauzon depuis toujours. Oui. Parce que Kersauzon est génial.
Très joli hommage à
Kersauzon est un navigateur génial et en plus un très grand écrivain. J'ai adoré les mémoires de Kersauzon. Oui. Vous les avez lus, les mémoires.
Un génie du verbe, disons. Mais un génie du verbe.
Parce que tu n'as pas lu les mémoires de Kersauzon.
Non.
Moi, je suis folle de Kersauzon. C'est mon outing de ce soir.
Alors, Fred.
C'est compliqué. Yann Kefelec, c'est un écrivain qui était dans une situation assez compliquée. J'ai l'impression un peu, comment dire, il a eu le prix Goncourt très tôt. En 85 pour son deuxième roman, et puis après il a publié 30 ou 40 livres franchement inégaux, parfois très bâclés, voire assez nuls. Et c'est un écrivain
très mauvais quand même.
Voilà, et c'est un écrivain qu'on pouvait considérer comme un peu fini, un peu au sens où par exemple Romain Gary a dû prendre un pseudonyme pour susciter de nouveau un intérêt, tellement il était usé l'image qu'il avait. Et il n'a pas pris de pseudonyme, Yann Kefelec, mais il a écrit ce monument. Moi, je trouve que c'est vraiment un livre assez... j'ai été très, très surpris, très étonné d'aimer autant un livre de Yann Kefelec. Et je trouve son lyrisme...
En plus, la mer, tu t'en fous, toi.
Je m'en fous. Enfin, j'habite au bord de l'océan Atlantique, donc, je regarde la mer.
T'es au bord, toi.
Mais je navigue pas. J'ai le mal de mer. Je vomis tout de suite. Mais en revanche... Oui. Je suis plutôt urbain qui découvre qui découvre les joies de l'océan. Mais quelle écriture riche, enthousiaste.
Parfois, on a l'impression... un peu emphatique, si vous
permettez. Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu, c'est oral, c'est libre.
Est-ce que tu as lu son dictionnaire sur la Bretagne, son dictionnaire amoureux de la Bretagne?
Non.
C'est exactement la même chose, c'est un petit bijou.
C'était très bien.
Et alors, ce qui m'embête, c'est cette collection, parce que cette collection, moi, je trouve qu'elle a rarement donné de bons résultats,
à
quelques exceptions près, mais c'est un peu un fourre-tout, cette collection de dictionnaires amoureux.
Mais pas avec Kefelec.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il désobéit complètement au principe. type, il fait une sorte de récit autobiographique.
Avec des points de suspension à la fin de chaque chapitre.
Voilà, et chaque chapitre rejoint l'autre. Donc, en fait, on peut vraiment le lire dans l'ordre comme un grand récit personnel, déclaration d'amour à la mère. Mais surtout, t'as l'impression. J'ai adoré. J'ai l'impression qu'il a écrit ça en état d'ivresse. Honnêtement, je pense que il y a des pages. On sent que l'auteur est totalement bourré. Et ça m'a énormément plu.
Oui, ça te plaît, ça. Hein, ça te plaît. Patricia?
Non, moi, j'ai adoré. C'est un véritable amoureux, parce qu'à un moment donné, alors qu'il écrit des pages et des pages, et que la mère l'a toujours accompagné, il dit, mais au fond, pourquoi est-ce que j'aime la mère? Et il dit, la réponse, c'est je n'en sais rien. Ça, c'est un véritable amoureux qui peut répondre ça. Et c'est fou, parce que, effectivement, il a eu des problèmes. Non, t'es pas d'accord?
Mais t'as jamais. Facile,
mais si, précisément, parce que c'est un tel mystère, parce que c'est tellement fort, et qu'il y a une adéquation entre la famille Kefelec et la mère, et ce qui a pu peut-être. Alors, il a dit des horreurs sur son père, enfin des choses très très dures. La réalité de la famille Kefelec, elle est peut-être un petit peu différente.
Qui avait écrit
des très beaux livres. C'est vraiment dommage que ces deux-là. C'est vraiment dommage que ces deux-là se soient pas rencontrés. Parce que bon, c'était. Il y a sûrement plein de raisons à ça.
Comme ça, les pères et fils écrivains.
Voilà. Mais il y a quand même une adéquation, donc, entre la mère et la famille Kefelec. C'est des animaux marins. Et d'ailleurs, lui-même, Yann, il s'est inventé une naissance à Brest. Par-dessus tout, je crois que ce qui doit lui plaire, tu parlais tout à l'heure, Olivia, de la mort de sa mère, il a voulu faire le tour du monde après sa mort. Justement, il voulait fiche le camp et faire le tour du monde. En fait, je me demande si justement, c'est pas ça, c'est mettre les voiles, c'est partir. C'est ça qui lui va le mieux à Yann. Ne pas être joignable, ne pas savoir où il est, en même temps partir avec audace. Je trouve que ça lui va, ça lui colle vraiment à la peau. Il y a des portraits effectivement magnifiques. Il y a aussi quelques pages sur Tabarly qui sont très belles. Il parle d'un Irlandais, Shackleton, au début du 20e, qui s'est retrouvé dans le bateau, a été laminé, qui s'est retrouvé sur la banquise. Ils ont mangé leur chien. Enfin bref, ils sont repartis en chaloupe. Enfin, il y a des histoires absolument épouvantables.
Sur le sous-marin, le Kursk, c'est très intéressant. Moi, je ne savais pas que c'était peut-être l'Amérique, en fait, un navire américain qui a descendu le sous-marin. J'ai pas vérifié.
Exactement. Hein. Et puis la rencontre avec Françoise Verny, qui a quand même été déterminante.
Elle a été racontée tellement de fois.
Ah, bah écoute, moi je la connaissais pas.
Enfin,
tu les imagines.
T'as une gueule d'écrivain?
Oui.
Ça a été raconté mille
fois. Oui, mais que ça s'était passé sur le quai de Belle-Île-en-Mer,
oui.
Moi je savais pas.
Si, si.
Eh ben je savais pas.
Mais je crois qu'à la rentrée, il y a
Bon, allez, Jean-Claude, ce dictionnaire amoureux de la mer, est-ce que tu l'as aimé?
Ah, mais moi je peux dire que. J'étais d'accord avec Patricia. Je trouve qu'il est vraiment dans la continuité du dictionnaire amoureux de la Bretagne, qui était absolument formidable. Celui-là est juste un petit peu en dessous. J'ai beaucoup aimé. C'est un léger bémol. J'avais tellement aimé le dictionnaire amoureux de la Bretagne qui a toutes les qualités que tu as repérées, c'est-à-dire c'est un lyrisme total, c'est jamais stable, ça part dans tous les sens, ça tangue, ça vire, ça souque ferme, c'est comme ça tout le temps. Et alors il a, je sais pas, c'est parce qu'il est bourré, mais il a des
il
formules,
temps, il
a des formules.
Il n'est plus bourré tout le temps.
Tu as parlé du bikini tout à l'heure. Sa définition du bikini, elle est géniale. Moulant rempart d'hypocrisie. Il dit la marée basse est un coffre à jouer. Superbe. Et il dit l'important n'est pas de s'imaginer inspiré quand on écrit, mais d'inspirer. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça tout le temps.
Non, c'est grognon. Mais c'est toi, vrai, qui est grognon.
Ben oui.
On pourrait dire des trucs presque
cheval,
un peu ridicules sur ce livre.
C'est
facile de s'en moquer et difficile d'en parler. Mais c'est pour dire un truc vraiment ridicule. J'ai rarement lu un livre écrit avec le cœur. Comme ce livre-là. J'ai
Il a répondu à la commande, et par deux fois déjà, et par deux fois, c'est une vraie réussite. Et ce que tu disais sur la mer, M.R.E., il en parle souvent dans ses livres, enfin ça revient tout le temps, et donc il est temps qu'il fasse son dictionnaire amoureux de sa mère.
Bon, allez, dictionnaire amoureux de la mer, c'est chez Plon, et c'est, vous l'avez compris, Yann Kefelec. En tout cas, c'est vraiment, pour cet été, un livre, ça je dois le reconnaître, assez idéal. Ne serait-ce que pour poser sa tête sur la plage. Tout le monde connaît le Tour de France par deux enfants, le manuel de 1877, écrit par Augustine Fouillet pour favoriser l'apprentissage de la lecture dans les écoles de la Troisième République, et dont le succès est absolument phénoménal. Vous vous rendez compte, 8 millions d'exemplaires vendus de l'original. Hein. Donc, un siècle et demi plus tard, voici aux éditions des Équateurs le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui. Et ces deux enfants de 27 ans sont Pierre Adrien, qui a fait un bouquin formidable qui s'appelle La Piste Pasolini,
qui
est les âmes simples, dans un couvent près du Pays Basque, d'ailleurs, qui était assez étonnant. Et Philibert Hume, d'avril à septembre 2017, et depuis Falsbourg, en Lorraine. Donc, ils ont sillonné, en reprenant vraiment le circuit de l'original, la France d'abord en Peugeot 204, jusqu'à Clermont-Ferrand, on ne dira jamais assez les vertus de la Peugeot 204. Mmh. Ensuite, en TGV jusqu'à Marseille, en voilier, ça c'est plus douteux, de la Grande Motte à 7, en selle sur des vélos, pour remonter le canal du Midi, en bus Macron pour rejoindre la Bretagne de Kéfélec, et enfin en train, si j'ose dire, pour atterrir à Roissy, parcours donc tout à fait
circulaire. À pied, ils ont fini de Roissy à Paris, ils sont venus à pied.
Mais après c'était à pied, mais avant c'était en train. Un parcours circulaire
oui,
qui
mais
passe...
après c'était quand même à pied.
Oh, un parcours circulaire. Qui passe par des hyper de zones industrielles, par le fameux couvent conçu par Le Corbusier, qu'ils appellent une HLM sacrée, une base sous-marine dévolue à l'art contemporain, le studio phocéen de Plus belle la vie, grand moment, ou encore un stade de foot, l'occasion de faire des rencontres. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des Français qui reconstituaient en Pont-Art, ça c'est incroyable, les bouchons de la Nationale 7 à La Palisse, dans l'Allier. Et d'autres qui préfèrent, un soir de présidentiel, regarder les mystères de l'amour sur TMC que le journal de 20h. Je précise d'ailleurs qu'ils ont bon goût, ces deux garçons, parce que j'ai noté la page 285. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils écoutent Le Masque et la Plume.
Oui, c'est vrai.
Ils captent. Voilà. Ah non, ils n'écoutent pas. Ils captent sur leur vieille autoradio.
Nous capturons Le Masque et la Plume, plus vieille émission radiophonique française, presque aussi vieille que Le Colonel Moore. Une auditrice appelait pour dire que le film 120 battements par minute, on n'appelle pas l'émission, aurait mieux fait de s'appeler 120 bâillements par minute, ça c'est vrai. C'était un critique qui l'avait dit. Et un critique démontait le dernier Bruno Dumont à mi-chemin entre Perceval le Gallois et le spectacle de fin d'année de ma petite nièce. Effectivement, c'était Le Masque. Ça, c'était Le Masque. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude ?
Ah, beaucoup de bien. Alors d'abord, la Peugeot 204, 40 ans d'âge. Hein.
Ah oui.
C'est pour ça que...
Vintage absolu. Hein.
Et c'est pour ça que capter Le Masque et la Plume, à mon avis, ils l'ont pris sur les grandes ondes. Je vois pas... tu vois ? Donc déjà, c'est...
Tu veux dire qu'ils l'ont pris en ayant la météo marine, en plus ?
Ah ben, c'est possible. C'est possible qu'il l'ait eu. Non, ce qui est formidable, c'est ce couple comme ça, parce que c'est, en fait, ils sont copains depuis la cinquième. Ils se définissent comme des sortes de Kerouac-Lorrains. Ils décident de suivre, en effet, le chemin voulu par Augustine Fouillet, dont ils disent, par ailleurs, qu'elle triche beaucoup, c'est-à-dire qu'elle va trop vite d'une étape à une autre, c'est pas possible. Là, les deux, là, qui s'appelaient André et Julien Volden, n'ont pas pu faire ça. Donc ça, c'est assez rigolo. Ce qu'ils font, c'est quand même une sorte de portrait attachant, chaleureux, mais assez mélancolique de cette France. C'est-à-dire qu'ils traversent une France qui se vide de l'intérieur. Ils font un éloge de l'hospitalité dans cette France.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui rencontrent des...
Ils traversent des villes en friche, ils traversent plein de centres-villes où tout est parti, où les habitants expliquent qu'il n'y a plus de boucherie, qu'il n'y a plus de mercerie, qu'il n'y a plus de bar, qu'il n'y a plus de cinéma.
Mais tout ça, c'était juste avant l'élection de Macron.
Oui, c'est ça. Alors, ils s'appliquent à suivre... À la lettre, le fameux proverbe « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu risquerais de ne pas te perdre ». Donc ça, ils suivent vraiment ça. Ils prennent un autostoppeur. Qui prend encore des autostoppeurs aujourd'hui ? C'est la disparition. Même la disparition des hirondelles. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'hirondelles.
Ça, c'est pas un scoop, hein.
Oui, mais enfin, ils le constatent, ils discutent, ils s'en rendent compte. Ils discutent avec un gardien de phare, il n'y a plus de gardien de phare. Il y a une très belle description, très émouvante, sur la solitude de l'île de Saint, justement. Mmh. Il y a une très belle défense émouvante aussi de Lens. Et je trouve que c'est un très beau passage.
Et puis, il y a beaucoup, ça, tu dis pas, il y a beaucoup de références à des écrivains. Très souvent, ils citent des auteurs locaux.
Ils s'aperçoivent que les discothèques de bord de route ont disparu, les macumbas et tout ça, ça a disparu.
Est-ce que c'est vraiment dommage?
Ils font un constat à un moment, ils disent, au bout du chemin, on s'est aperçu qu'on avait croisé deux France, celle des jeunes et celle des vieux, et ils ne se rencontrent jamais. Jamais. Et puis, c'est un livre qui a vraiment bon goût, parce que ils font un éloge de Bordeaux qui est absolument magnifique, qui est juste.
Qui est bien. Ils font aussi un éloge de Marseille.
Oui, mais Bordeaux.
Et toi, Frédéric ?
Non, mais je comprends très bien que le projet soit joli, parce que c'est un peu comme...
Je sens que ça t'a pas plu.
C'est un pastiche de la France du petit Nicolas, un peu.
Non, là, c'est vraiment un pastiche de l'original.
Oui, de ce livre, Le Tour de France par deux enfants, mais... Bon, ça se situe entre Kerouac et Sylvain Tesson, un peu.
Ah non, justement, ça n'a rien à voir.
Ah, je suis désolé, si, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien Sylvain Tesson. Mais au bout d'un certain temps, ce ton,
de naïveté exagérée finit un peu par lasser. On se retrouve un peu comme comme quand on écoute Radio Nostalgie ou qu'on voit un film de Jean Becker, si vous voulez, avec le côté.
Oh, ça, c'est deux choses que je ne fais jamais, tu vois.
Non, mais il y a le côté
Radio Nostalgie.
Voilà, c'est ça, c'est ton.
En
c'est...
regardant un film de Jean Becker.
Je me garderais bien de dire que c'est réac, parce que je suis très pour être réac. Je trouve ça très bien d'être réac. Ouais. C'était mieux avant, oui, c'est vrai que c'était la France,
mais
c'était mieux
pas
avant.
Il y a un côté bien élevé quand même derrière. Ils ont un côté bien élevé l'un et l'autre, mais pas réac.
Et puis il n'y a pas de naïveté non plus. Non.
Si c'est que c'est, disons que l'émerveillement permanent devant chaque rencontre, comme si elle était la plus extraordinaire.
C'est pas de l'émerveillement. Moi, je trouve que c'est de l'étonnement, mais c'est pas de l'émerveillement.
Et puis tu oublies qu'ils disent d'entrée qu'ils vont essayer de reprendre le regard d'enfant des deux héros.
Oui, c'est le projet. Oui. Mais je dis juste que moi, ça m'a un peu lassé. Même s'il y a des tas d'aspects qui me plaisent bien, comme l'idée de ralentir, d'aller à la rencontre des gens.
C'est Fou Furieux qui reconstitue les bouchons à la palisse, quand même,
Non, mais t'as aussi un homme d'affaires hyper ultra-libéral, et puis finalement qui est assez sympathique et qui a l'air paumé. Mais bon, voilà, je sais pas.
Une radiographie intéressante de la France.
Alors, je crois que tout le monde s'exprime, Patricia.
Moi, j'aime justement leur duo, je trouve qu'ils donnent le ton, parce que Sylvain Tesson, tu peux penser aussi à Jean-Paul Kaufmann, c'est pas du tout la même chose. Quand tu te balades tout seul, et Dieu sait si j'aime Tesson, et Dieu sait si j'aime Kaufmann, mais là, ils frottent leurs regards, leurs impressions, ils s'agacent quelquefois mutuellement. Enfin, oui, on sent tout ça aussi dans l'écriture, comme ça, petits frottements.
Il y a un phénomène étrange, c'est qu'on ne sait plus qui écrit.
Mais c'est ça, on ne le sait même jamais, en fait. Parfois, ils écrivent alternativement. Mais en même temps, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu quand même un certain moment d'effusion. Enfin bref. Non, moi je trouve qu'ils ont le bon âge pour aborder tout ça, parce qu'effectivement, tu disais, c'est un peu. Oui, c'est vrai, là, une France disparue, avec aussi les vieilles pompes à essence, les panneaux jaunis, les enseignes qui pâlissent, etc. Il y a beaucoup de ça. Sauf que ils abordent ça, encore une fois, mais avec une certaine fraîcheur, parce que ils sont trop vieux pour s'ennuyer avec ils sont pas encore assez vieux pour avoir une certaine amertume, en disant quand même justement le c'était mieux avant. Ils n'ont pas du tout ça, justement. C'est une espèce de constat je trouve pas. À aucun moment, ils ne regrettent comment c'était. Ils ne disent pas ça. Jamais.
Ils disent que tout a disparu, que les usines ont fermé, que les
On en voit les traces.
C'est une réalité.
Quand même que Pierre Adrien, il a passé des mois et des mois dans un couvent juste avant de faire ce voyage.
Oui, mais quand ils vont dans une école désaffectée, par exemple, où on ne fait plus que voter, c'est un fait. L'école n'est plus une école.
Olivia.
Alors moi, je pense l'inverse de Frédéric, parce que le projet m'intéressait pas beaucoup, surtout que je me souvenais du premier Tour de la France qu'une professeure de français avait essayé de nous faire lire, et j'avais trouvé que c'était une punition. C'était deux garçons un peu mièvres et idiots qui disaient
mais surtout très malheureux.
Comme l'herbe est verte, comme les montagnes sont hautes.
C'était un autre temps.
C'était très édifiant et j'en gardais un souvenir vraiment très ennuyeux. Je me souviens d'avoir poussé des cris d'ennui. Et là, je trouve qu'ils déjouent tous les pièges. Moi, j'ai adoré les deux garçons. D'abord, ils sont assez, parce qu'ils sont drôles.
Ils sont délicieux.
Quand ils partent, il y en a un qui arrive avec deux valises, l'autre dit « Je me trimballais avec une Parisienne en vacances. Merci pour la Parisienne. » Je trouve ils ont le bon ton, que c'est rafraîchissant, qu'ils tombent jamais dans le côté « c'était mieux avant ».
Beaucoup de clichés, quand même.
Non, c'est deux jeunes qui arrivent dans une France de vieux. D'ailleurs, il y a un moment, ils tapent sur Internet, ils cherchent une information et on leur dit « rentrez votre raison sociale, famille, senior et tout ». Lui, il tape « jeune » et on lui dit « aucun résultat ne correspond à votre recherche ». Et ben voilà, c'est ça. C'est une France où il n'y a plus de jeunes. La France d'une époque révolue, mais jamais ils tombent dans le panneau de dire « justement, c'était mieux avant ». Parce que moi, j'ai bien aimé la capacité d'émerveillement, tu l'as dit, mais je trouve que moi, elle était touchante. Et il rencontre des gens incroyables. Le gars dont tu parles, qui est chef d'entreprise, qui sorte, il roule un peu des mécaniques, et puis tout d'un coup, il raconte aux deux garçons.
Il organise une sorte de buffet.
Non, et puis il raconte aux garçons que quand il était petit, son père, qui était ouvrier, il allait à la boulangerie pour chercher du pain, et le boulanger disait eh ben, je te donnerai du pain quand ton père m'aura donné du fric. Hein. Moi, j'ai trouvé que le ton était juste.
Le couple de. Qui les accueille sur le bateau, qui est totalement dépressif, quand même très étrange. Et puis la fille de la comédienne de Plus belle la vie.
Le libraire d'Autun, qui est un type absolument
génial. Ils arrivent à Audierne, il décrit très bien Audierne, chacun a regardé son chez-soi.
Et cite même Georges Perros. Le tour de la France par deux enfants.
C'est pas ennuyeux. Non,
mais ça, c'est parce qu'il écoute le masque, il fait exprès de citer Georges Perros pour qu'on dise du bien au masque.
Moi, je sais pas qui c'est Georges Perros, donc tu vois, je suis tranquille.
C'est donc aux Équateurs et c'est signé Pierre Adrian et Philibert Hume. Déjà ça, Philibert Hume.
Non, c'est vraiment vachement.
Allez, Un mariage anglais, le deuxième roman après Les jours infinis de la Britannique Claire Fuller. C'est traduit chez Stock par Mathilde Bach, soit 450 pages pour tenir la chronique d'un mariage raté, même très raté, entre une jeune femme de 20 ans, Ingrid, et son prof de lettres à la fac, Gilles Coleman. 15 ans plus tard, ils ont deux filles, Flora et Nan, et Gilles est devenu un écrivain à succès, évidemment, de plus en plus absent, de plus en plus volage. C'est le problème des écrivains à succès, Frédéric. Ce qu'Ingrid n'arrive plus à dire à son mari, elle l'explique dans des lettres qu'elle cache aussitôt dans des livres de leur bibliothèque avant un beau jour de 92 de disparaître sans laisser d'adresse. Elle se serait, dit-on, noyée dans la mer de Kefelec. 12 années passent et Gilles, qui n'écrit plus, croit reconnaître Ingrid par la fenêtre. Il se lance à sa poursuite. Il fait une chute, méchante chute.
Ça tombe mal.
Ça tombe mal, oui. Et les deux filles se rendent alors à son chevet sur la côte sud de l'Angleterre. Et bien évidemment, où est Ingrid ? Frédéric va nous le dire dans quelques instants. Ouais. C'est assez délicat, je trouve, ce livre, assez sensuel même. Est-ce qu'il fallait 450 pages pour le dire ? Je n'en suis pas convaincu. Frédéric ?
La réponse est non, hein. C'est clairement. Mais je pense que Patricia a dû beaucoup aimer, je suis sûr.
Pas... Non.
Non. Non, j'avais, non, parce qu'en lisant, je me disais.
Pas mal cassé les pieds.
Ah bon, d'accord. Mais parce qu'en lisant, je me disais, Patricia va aimer.
Mais il y a deux jours, mais je trouve ça trop long. C'était affreusement trop long.
Non, mais alors, il y a un problème avec la Cosmopolite chez Stock, qui est une des plus grandes collections de littérature étrangère en France. Hein.
Avec celle de Robert Laffont.
Bien sûr, Pavillon.
Pavillon.
Mais quand même, dans la Cosmopolite, nous avons lu Singer, Stephen Zweig, Carson McCullers. Catherine Mansfield, immense collection. Et là, le problème de cette collection, c'est qu'elle a changé probablement de responsable. Elle est rose, la couverture est rose, et ils pensent qu'il faut faire de l'eau de rose. Je pense que c'est ça le problème. Il y a eu Christina Comencini, on en a parlé ici.
Ne dis pas de mal de Christina.
Olivia, c'est des livres qui ne sont pas dignes d'être sous la couverture de cette collection.
Ouais,
d'accord, mais je pense. Alors, bah, j'ai expliqué pourquoi. Moi, je vois qu'on reprend. Enfin, que cet auteur reprend un peu l'argument de sur la route de Madison. En gros, tu te souviens, il y avait les enfants qui trouvaient le journal intime de leur maman et après sa mort, et elle avait eu une histoire avec un beau gars et tout ça.
Tu vois un plagiat ?
Pas du tout. Non.
Bah, sauf qu'au moins, elle
mais c'est le même argument.
Bonheur dans sa vie.
C'est le même argument, sauf que l'idée est assez jolie d'avoir écrit des lettres et de l'avoir glissé dans des livres.
Elle a pas d'amant là.
Voilà, non, mais c'est plein de lettres sur son mariage. Elle fait le bilan de sa vie avec son mari et tout ça. Puis après, elle disparaît. Bon, donc j'avais l'impression déjà d'avoir un peu déjà lu ce truc.
Olivia a aimé.
Non, d'abord, moi, je voudrais défendre la Cosmopolite parce que je trouve que c'est toujours une grande collection. Il va y avoir à la rentrée un texte de Rachel Kochner qui avait publié Le Lance-Flamme. Moi, je trouve que c'est une collection de qualité encore. Et là, je trouve qu'avec tous les ingrédients du genre, c'est-à-dire des grands sentiments de la trahison, de la jalousie, de la passion, de la maternité, de la paternité, tout, eh ben, elle fait une narration très efficace et moi qui m'a beaucoup émue. Je suis toujours fascinée par les romans dont le nœud dramatique est constitué par une mère qui disparaît. Parce que ça me semble le tabou ultime et pour moi le mystère le plus profond d'abandonner ses enfants.
C'est toujours fondé sur l'idée que les mecs sont tous des salauds. Hein.
Et après, oui.
Mais
la deuxième chose...
C'était une drôle de mère. Enfin,
oui, mais on a le droit d'être drôle de mère. Donc je trouve que...
Tu vois Laura Kasichke avec
oui,
ça.
Oui, absolument.
Bah, je suis désolée, c'est pas
oui,
du tout le même niveau.
Oui, ça a moins d'acuité. Puis Laura Kasichke, elle a une langue de poétesse.
Mais voilà, il y a un problème mais avec le style, faut le dire.
Non, je trouve que dans
attends,
le genre...
La mère et son manteau
grand
blanc d'écume...
populaire, peut-être qu'il y a des facilités d'écriture, mais je trouve qu'il y a un bon rythme, que pourquoi ça dure 450 pages ? Parce qu'il faut 450 pages pour démontrer que les femmes sont folles. Parce que quand elles rencontrent Ingrid...
On le sait d'emblée.
Je sens que tu vas en dire trop. Parce
pas
que...
du tout, je dis que quand elles rencontrent cet homme, il est évident qu'il faut prendre ses jambes à son cou.
Pourquoi ?
Oh bah parce que dès le début...
Mais il est plein de charme.
Il est plein de charme, mais il est impossible. Et en même temps, on comprend qu'il y aille...
Non, moi c'est un écrivain.
Moi, je trouve que dans le genre anglo-saxon, populaire, très très bien fait, et moi j'ai beaucoup pleuré à la fin, en fait.
C'est vrai ?
Oui.
Eh bien, moi, je suis du côté d'Olivia.
Ah, merci Jean-Claude.
Mais à la différence d'Olivia...
T'as aimé ça ?
À la différence d'Olivia, j'ai conservé ma dignité, je n'ai pas pleuré.
Voilà.
Je le dis tout de suite, c'est trop long. Non, au contraire. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé la finesse, la subtilité de la construction. J'aime beaucoup ce contrepoint permanent d'un chapitre sur l'autre où on retrouve les lettres qui posent véritablement ce qui s'est passé, véritablement. Et quand on retourne au réel, le chapitre suivant, on est dans une sorte de chaos familial, de désastre conjugal, tout ça. Et quand on revient à elle, et je trouve que cette construction-là est très jolie, mais plus qu'efficace. Ça marche vraiment bien, ça soutient le projet littéraire, ça tient. Et je trouve que cette traversée de ce couple-là, de cette famille, des deux filles et qui ont des évolutions différentes, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu.
Bon, voilà. Et Patricia ?
Mais je trouve que c'est vrai que c'est un beau portrait de femme, cette Ingrid. Les lettres sont puissantes quand elle écrit « J'aimais ce que nous étions à l'époque, ce que nous aurions pu devenir ». Alors, c'est une chute intérieure à bas bruit. Je pense que là, il y a de réelles qualités. Cela dit, à partir du moment où, justement, cette alternance, au bout d'un moment, on en a...
Sauf
que comme c'est long, il y a beaucoup d'alternance. Oui. Donc franchement, c'est casse-pied. Il y a une certaine préciosité aussi qui est pompante.
Quand même.
Il y a des références littéraires sans arrêt. Tu te casses la figure toutes les deux lignes sur au sens propre sur des piles de livres. Il y a des piles de livres partout.
Ah bah parce que c'est un peu le principe du livre. Hein. C'est une fille qui cache des lettres dans des livres chez un homme qui a toujours préféré les livres.
Au bout d'un moment, on a compris.
Donc c'est normal.
Au début, il la voit, il court, il pense la voir.
C'est ridicule. Et
alors là, je trouve que quand même la ficelle est énorme.
Il court après un fantôme, il se pète la gueule dans l'eau, il est blessé.
Bonjour la culpabilité, la punition divine.
Jamais, bien sûr.
Non mais attendez. Je vous rappelle, on est au mois d'août. Des gens vont peut-être l'acheter.
Ah oui, ils l'achètent.
Mais évidemment. Comme ça, leurs vacances leur paraîtront plus longues.
Il faut les prévenir.
Très bien dit.
Il faut les prévenir quand même que c'est long.
Non.
Voilà.
Non.
Ça c'est long.
Non.
9 contes de la canadienne et désormais icône du nouveau féminisme, Margaret Atwood. Un livre traduit par Patrick Dussoulier chez Robert Laffont. Atwood dans la collection Pavillon.
Voilà.
L'auteur, je vous le rappelle, de La Servante écarlate, portée à l'écran par Schlondorf en 90 et depuis adapté en série télé l'an passé avec un succès phénoménal.
Et là, il y a une nouvelle version, je crois.
Absolument. Donc, Margaret Atwood, elle rassemble ici 9 nouvelles qui sont pas très gaies, il faut prévenir quand même. Dans Matelas de pierre, une femme retrouve le mec qui l'a violée quand elle était jeune et va prendre, je n'en dis pas plus, sa revanche en plein océan Arctique. Une autre momifie son fougueux amant. On rencontre aussi une femme plutôt vampire, et une auteure de fantasy qui entend son mari mort lui parler et qui se rappelle son premier amour qui était un poète qui l'avait plaqué. Vous ne me suivez pas, c'est pas grave. En tout cas, elle a 78 ans, Margaret Atwood. Elle en a encore, hein, et notamment pour confronter des personnes âgées aux démons de leur passé, jusque dans cette résidence, ça c'est une scène incroyable, où une vieille dame aveugle entend de jeunes manifestants crier « les vieux au feu, les vieux au feu ». C'est quand même, il faut le faire.
Dans un des contes, il y a un type qui s'est fait qui a une mèche blanche, alors elle l'appelle le punk.
Alors ça, les personnages sont souvent des personnes âgées.
Ouais. Oui, puis en plus, c'est des personnages récurrents. Hein, puisqu'on retrouve le poète, par exemple, dans la nouvelle suivante. Est-ce qu'on les conseille pour le mois d'août, ces contes, Jean-Claude, ou pas ?
4 sur 9.
Bah, tu peux pas découper le bouquin.
Non, mais 4
sur 9, ça fait la moyenne ?
Mais oui, il y a 4 contes.
Mais comment tu fais, tu conseilles ?
Je suis pas bon en maths. 4 sur 9, c'est pas la moyenne. Ah non.
Ben non.
C'est pas sympa, ça.
T'as un comptable, Frédéric, non ?
J'espère. Non, mais seulement 4 sur 9 ?
Oui, 4 sur 9, oui. Voilà, il y en a 4.
C'est un peu méchant, c'est ça qui...
C'est pas que c'est un peu méchant, ça a fait sur moi, en tout cas les premiers, le même effet sur moi qu'avait fait Harry Potter, c'est-à-dire que je n'y comprenais rien.
Oh.
Mais rien. Et alors, je m'étais déjà exprimé ici en expliquant que je ne comprenais rien à Harry Potter, ce qui avait valu un courrier extraordinaire. Et là, par exemple, le premier conte, j'ai eu l'impression de replonger dans Harry Potter. Je trouvais ça dérisoire,
pourtant,
grotesque,
c'est très, très
et ça faisait
d'Harry
la
Potter,
même
hein.
impression. Voilà, c'était la même impression. On peut pas séparer dans l'expérience de la lecture ce qu'éprouve le lecteur.
Non, mais c'est pas possible. Non, là.
Donc là, je vous fais part d'une expérience subjective. Je vois que c'est la même chose qu'avec Harry Potter. Vous étiez aussi pareil. Voilà. Sinon, alors celle que j'aime, enfin les trois que maintenant c'est même trois. que j'aime. Alors là, je les trouve absolument formidables. C'est-à-dire celui qu'on appelle le marié.
Il y en a trois, 4 plus 3 égale 9.
Ça fait un tiers.
Oui. Ben,
non,
selon
il
n'en
aime
le...
que trois.
Oui, ben, c'est pas interdit. Je veux dire, dans, dans,
il
dans
change
les d'avis livres.
À la fin
vous avez bien,
mission,
vous avez bien chipoté sur les 450 pages de Claire Fuller. Eh ben, moi, je vous dis que sur les 9, il y en a 3,5, 4. Ben, je sais pas, tu te débrouilleras pour faire le calcul.
Bon, écoute, on va pas passer notre soirée à faire des comptes.
Je te rappelle,
Jérôme. Voyelle.
Tu es totalement libre de te tromper.
Je te rappelle que tu m'as posé une question, donc j'essaie d'y répondre à ma façon. Et voilà. Le marié lyophilisé. Vachement bien.
Génial.
Mais vachement bien. On va pas dire ce qui se passe. Ce qu'on va dire, c'est juste les prémices qui sont formidables.
Oui, parce que le problème, c'est qu'on peut pas raconter non plus.
Si, parce que.
Non, mais la manière dont la plupart se terminent.
Non, mais c'est pas exactement.
Quand on a
du
compris
début,
les comptes.
Hein.
Oui, mais là, par exemple, c'est une scène de ménage au petit déjeuner, et par provocation, et puis par, dans l'énervement, la femme dit au mari, je te quitte. Et lui reprend cette provocation, et bien, très bien, je me casse, tout ça. Enfin, bref, c'est le ton monte, il se casse, et il sort comme un héros de Sempé. Vous savez, il y a un dessin de Sempé qui est génial, où on voit un petit bonhomme qui fait pleurer sa femme et qui lui dit, un lion blessé est toujours cruel. Bon, ben, il y a cet esprit-là.
Oui,
donc,
un petit cravaté.
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, une sorte de rond de cuir, un petit peu, voilà. Et il sort, il fait une sortie, mais alors vraiment
mais pas d'embardé,
du mal offensé. Et puis il arrive devant sa belle Audi, il est incapable de la faire démarrer. Donc il revient piteusement à la maison voir si on peut pas brancher un câble avec la petite auto de la madame. Ben bon, c'est absolument formidable. On va découvrir que c'est un antiquaire qui est plutôt fortuné, qui a même beaucoup d'argent. Il achète aux enchères des containers.
Tu racontes toujours trop.
Non, non,
si, tu racontes
non,
toujours
mais
trop.
Non, tu vas voir. Si, mais si. Non, parce qu'on bascule dans autre chose. Et le basculement à l'intérieur de ce conte est absolument formidable. Entre cet univers conjugal un peu bêta et ce qui va lui arriver, ces histoires de conteneurs, je trouve dans le même conte, c'est-à-dire en 30 pages, chapeau. Et il y en a deux autres comme ça.
Je trouve que c'est un portrait quand même des seniors plus, quand même très...
Et il y en a une que j'adore, c'est la main morte thème. Alors ça, je trouve l'histoire de la main.
Allez,
là.
Patricia.
Non, mais justement, c'est dans le mari lyophilisé, l'histoire de leur rencontre, justement, quand elle vient, elle, acheter un épagneul en porcelaine et un cendrier, je crois. Enfin bon, c'est absolument... Elle les ridiculise, c'est absolument... Enfin, moi, je la trouve géniale parce que... En fait, ces personnages, c'est des sales gosses qui leur restent toute leur vie et qui ont l'esprit hypothétique, c'est-à-dire qui envisagent aussi le pire, qui aiment avoir une liberté sans limite et qui ont, on va dire, des principes moraux pour le moins fluctuants. Mais en fait, c'est pas elle qui est cruelle et qui est sombre. C'est les gens qui sont comme ça. Et là, elle est comme un entomologiste. Ces personnages, ils sont pas fiables. On leur confierait, mais je sais pas, même pas son poisson rouge. Enfin, c'est hallucinant comment tout peut tout à coup se déglinguer. Et ça, elle le voit très bien. Puis alors, la façon dont elle parle du sexe, alors ça, moi, j'adore.
C'est-à-dire explique...
Ah non, je dirais pas plus. Mais
ce que tu dis là n'est pas clair.
Disons qu'il y a des hommes qui ont beaucoup de chance dans ces contes. Voilà, c'est tout ce que je dirais.
Olivia.
Oh ben, moi, je trouve que c'est une très grande écrivain féministe. La première nouvelle dont tu parles, qui t'a fait penser à Harry Potter. Alors, il faudrait vous dire que Harry Potter est une femme, hein, qu'il a 70 ans, qu'il est veuf. Enfin, je vois pas bien le rapport avec Harry Potter. Mais la nouvelle est géniale. C'est une fable féministe extraordinaire. C'est une veuve. Son mari lui parle. Donc, elle part, il y a une tempête de neige. Elle a pris dans la cheminée un sac de cendres pour pas tomber, qu'elle sème au fur et à mesure de son chemin. C'est extrêmement visuel. Je trouve qu'elle a une manière de raconter géniale. Et elle arrive, il n'y a plus de sel. Et là, elle entend son mari lui parler au supermarché. Moi, j'adore ça. Il lui dit, prends de la litière pour chat. Et elle lui dit,
mais t'imagines chat, le cauchemar.
Mais c'est génial.
Si ton mari continue
à parler,
il faudrait
que ça soit un film.
Surtout ouais, pour te dire, prendre la litière pour chat.
Mais non, parce qu'il la sauve. Et après, on va découvrir son histoire d'amour, qui est très compliquée, mais qui est surtout, en fait, l'histoire d'une femme qui écrivait de la fantaisie qui cartonnait. Elle était avec un poète qui se moquait d'elle en lui disant « t'es nain de jardin ». Et elle lui disait « mais mes nains de jardin nous font vivre ». Et je trouve que...
Je te rappelle que ce poète, il l'avait plaqué. Hein.
Mais c'était un mec ignoble.
Ignoble, hein.
D'une
tous les
femme,
personnages masculins sont ignobles.
Sont assez ignobles. Ça, c'est vrai.
Ils ne sont pas top non
alors,
plus. Hein.
Peut-être ce qu'on peut
enfin,
lui reprocher,
les mecs,
c'est une vision un petit peu...
Ouais, là, un petit peu réaliste.
Non, tu es gentil, j'allais dire peut-être parfois un peu caricatural de la jante masculine.
Oui.
Mais c'est
non,
grand.
Mais, écoute, moi je suis très heureux que Patricia ait aimé.
Alors et pourquoi
bah, c'est bien meilleur que Claire Fuller, là vraiment bien meilleur. C'est,
et
c'est
que du, Musso
c'est d'une intelligence machiavélique.
On parle de
c'est drôle. C'est drôle. C'est perfide. C'est, oui, féministe, mais alors à ce moment-là. Tout le monde doit être féministe, c'est très important.
Mais d'ailleurs, tout le monde
bien
doit être
sûr,
féministe.
Bien sûr, il faut être féministe. Mais là, c'est vengeur, c'est désopilant. Tous les mecs sont des gros connards obsédés sexuels et complètement idiots.
et mérite d'être assassinée immédiatement. Et c'est ce qu'elle fait. Elle les tue les uns.
C'est Frédéric Becbédé qui vous parle. Il est.
Mais bien sûr, c'est très bien. Mais non, mais allons-y. C'est de la littérature. C'est vraiment. Elle a un talent fou. Cette Margaret Atwood, je connaissais pas. C'est la première fois.
Comment ça, tu connaissais pas? Non,
je n'ai pas lu et j'ai pas aimé la série.
Pas Georges Perros, pas Atwood.
Non, mais la Servante Écarlate, j'ai vu la série. J'ai trouvé ça très ennuyeux, moi personnellement.
Non, mais le livre est génial.
Bon, mais c'est une sorcière, cette Margaret Atwood, en fait. C'est une sorcière, vraiment. Au Moyen Âge, on l'aurait brûlée.
Mais tu sais qu'elle avait une ancêtre qui était au XVIIe siècle. Elle avait une ancêtre dans sa famille qui était sorcière et qui a été brûlée parce qu'elle faisait la magie noire. Seulement, elle n'est pas morte tout de suite. Elle est restée toute la nuit à se tortiller. Ah. Et elle n'a été détachée de là où on l'avait attachée, je ne sais pas où, un arbre, ou Dieu sait quoi, et elle était encore vivante.
Ah. Si vous voyez les yeux de Patricia Martin, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra
nouvelle,
à la radio.
Il y a une nouvelle comme ça, avec une femme vampire qui hante encore, c'est peut-être son aïeul.
Elle est une icône aujourd'hui dans le monde entier.
Ah, mais bien sûr.
Un peu comme Simone de Beauvoir. C'est quelqu'un qui...
Oui, mais je comprends. Je comprends, même si Simone de Beauvoir a peut-être un petit peu moins raconté.
Plus gothique que Simone.
Oui, c'est plus gothique.
Oui,
c'est plus gothique. Oh. Il y a plus de vampires.
Après, c'est pas gentil pour
neuf
Simone.
Neuf contes de Margaret Atwood. Allez, on termine rapidement avec L'été où tout arriva, 1927, L'Amérique en folie, de Bill Bryson. Je te le dis quand même, Olivia. Pas Bill Bryson. Traduit chez Payot par Hélène. C'est un peu private joke.
C'est Bail.
Par Hélène Infray. Et le point de départ de son livre de 624 pages, c'est la traversée de l'Atlantique, New York-Le Bourget, par l'aviateur Charles Lindbergh, le 21 mai 1927. L'occasion de faire un portrait, il faut dire avec plus d'humour que de méticulosité, des États-Unis, juste avant le crash de 29. Et un état des lieux, des événements, inventions qui ont bouleversé le monde, le cinéma parlant bien sûr, avec le chanteur de jazz Al Johnson, la télé, le baseball, les centres commerciaux modernes, tandis que ça j'adore ce passage, que le président qu'on a tous oublié, Calvin Coolidge, dont le gouvernement se consacre à l'inactivité, s'ennuie, que le constructeur automobile Henry Ford professe des idées antisémites, et qu'Al Capone vit ses derniers jours, je le disais, gros livre. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, Frédéric? Ou pas plus.
Oui, en fait, j'ai compris au bout de quelques pages que c'était de la vulgarisation historique à base d'anecdotes hautes en couleur pour décrire les années folles. Et donc, j'avais l'impression de lire une sélection du Reader's Digest.
Vous voyez, ces gens. Ça existe encore, ça.
Quand j'étais jeune, il y avait ça et qui traînait chez mon grand-père et j'en lisais. Il y avait des anecdotes comme ça sur l'histoire.
Il y a des passages intéressants, je trouve.
Oui, j'ai appris par exemple que le romancier le plus populaire des années 20, à l'époque donc de Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, c'était Harold Bell Wright, qui avait écrit Le fils de son père. C'était un peu le Guillaume Musso des années folles, si vous voulez. Mais ultra populaire, quoi. Il vendait des vingtaines de wagons de trucs. Qu'est-ce qu'on apprend? Que Bela Lugosi, l'acteur de Dracula, a été révélé par un film intitulé The Devil in the Cheese, Le diable dans le fromage, en 1926. Des trucs comme ça que tu notes et puis tu voilà
et
que
qui servent à rien.
Qui servent à rien.
Non, mais c'est que tu donnes tellement envie de le lire.
Mais non, mais je pense que ce livre
presse dithyrambique pour ce livre.
Oui, je sais pas.
Des papiers, mais dithyrambique.
Mais ça m'a rappelé un livre qu'on avait traité ici, qui était le livre sur Sartre, Beauvoir et les existentialistes.
C'est un peu ça. Par une Anglaise.
Et voilà, c'est un peu ça. Alors lui, c'est un Américain, mais il vit en Angleterre, je crois, où il a vécu en Angleterre longtemps. Il y a une espèce de mode de vulgarisation historique.
Tu penses la même chose, Olivia?
Patricia a eu le bon mot de l'émission en disant que Claire Fuller, grâce à Claire Fuller qui était un peu long, les vacances sembleraient plus longues. Alors là, si vous lisez ça, les vacances semblent interminables. Elles ne finiront jamais. Moi, il y a une phrase qui m'a énervée dès la première page. C'est rare, hein?
Tu veux dire que tu n'es pas allée au-delà?
Dès la première page, une phrase extrêmement misogyne. Ça doit être affreux d'épouser une de ces beautés nubiles, sachant que dans chacune d'elles se cache une bombe à retardement qui la transformera un beau jour en quelque chose de grotesque et de monstrueux, brutalement et sans préavis, comme un radeau pneumatique autogonflable.
C'est au second degré.
Ah bon? Alors j'ai cherché la phrase d'après sur les hommes qu'on épouse, qui sont des magnifiques princes charmants et qui ont des bouées autour d'eux qui deviennent affreux.
Cette phrase-là, tu l'as chez Margaret Atwood.
Oui, voilà. Non, j'ai trouvé que c'était misogyne. Il y a un tunnel sur l'aviation pendant 60 pages qui n'en finit pas.
Ça parle de Charles Lindbergh.
Ah oui, c'est quand même Lindbergh.
Philippe Roth a fait un livre bien meilleur sur Charles Lindbergh.
Voilà, un livre génial.
Le complot contre l'Amérique.
Moi, je n'en peux plus de l'histoire de la Grande Amérique racontée par des petits personnages. Cette espèce de mode, on va vous raconter le grand par le petit, et puis l'Amérique d'hier qui raconte l'Amérique d'aujourd'hui, ou celle d'aujourd'hui qui raconte celle d'hier, j'en sais rien. Je n'en peux plus. C'est très, très ennuyeux et assez prétentieux.
Jean-Claude ?
Mais vous attigez. Je veux dire, il est dans la continuité de ce qu'il a toujours écrit.
Ah, mais j'avais jamais lu avant.
Il a toujours fait des
livres. Je ne lirai pas après.
Il a toujours fait des livres vraiment poilants sur l'histoire.
Dites-moi un truc drôle.
Ah, mais alors là, pour le coup, moi, je me suis marré tout le temps. Tout le temps. Si toi, tu as pleuré pour Pierre Fuller, moi, je me suis marré tout le temps. J'ai appris une foultitude de choses. Excusez-moi, mais sur Lindbergh, les pages sont absolument passionnantes. Moi, je ne savais pas que Lindbergh mesurait 1m90 et pesait 58 kilos.
C'est le côté quid. Tu vois, tu dis quid.
C'est ça, c'est le quid.
Est-ce que vous imaginez ce personnage qui ne volait que depuis quelque temps, qui était un néophyte, personne ne voulait miser sur lui, 1m90, 58 kilos dans son zingle, hein. Part en pleine tempête, on apprend une foultitude de choses sur Lindbergh, parce que en effet, Philippe Roth, mais le livre de Philippe Roth n'est pas là-dessus, il est sur le fait qu'il était proche des nazis et qu'il aurait pu devenir en effet président.
Il en parle beaucoup du Ku Klux Klan et
oui,
tout ça.
Oui, mais sur l'accueil qui est fait à Lindbergh, mais c'est hallucinant. Écoute, alors ça va aller dans ton sens. Quand il vient, toute la ville de New York l'attend à Broadway, mais toute la ville. Hein. On avait ramassé pour le défilé de l'armistice 1500 tonnes de débris, d'accord ?
Ah oui, c'est ça.
Pour lui, c'est 1800 tonnes. C'est-à-dire qu'on est passé de 500 tonnes, pardon, à 1800 tonnes. L'accueil qui est fait à Lindbergh est hallucinant. On n'a pas idée même de ce qu'a été l'entreprise. Le nombre d'aviateurs autour de lui qui se sont tués pour essayer de le battre et tout ça. L'invention
du. C'est drôle, c'est désopilant.
Non mais.
Alors après Olivia, c'est la façon de le traiter. Effectivement, si tu prends des fiches pour question pour un champion, c'est pas drôle. Mais là, lui, il a toujours fait ça dans sa littérature, notre ami là, sur la prohibition. Mais c'est le clou du livre. Il se surpasse sur le portrait des présidents des États-Unis. Et je suis désolé, c'est pas la grandeur de l'Amérique. Bien au contraire. Au contraire, c'est un pays d'idiots. Alors il y a quelques génies et il y a beaucoup d'idiots en 1927.
Et
Ce qui est intéressant.
Et d'hypocrite.
Vachement intéressant de voir ce qui s'est passé cet été 1927. Moi, je ne le soupçonnais pas. Et franchement, je parle moins de son style. C'est un style vraiment marrant.
Toutes les informations qui sont données ne sont pas utiles. Mais ce que tu disais, parmi les tonnes de choses retrouvées après l'arrivée de Lindbergh, par exemple, au Bourget, il y a 6 dentiers, par exemple. Bon, effectivement, tu n'as pas forcément...
Non.
Oui, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est marrant. Quand il y a eu la grande crue du Mississippi en 1927, il donne le nombre de poulets qui ont été victimes de cette grande crue.
Et alors, c'est combien ?
Mais comme dit Jean-Claude, je n'ai pas noté ça, mais comme dit Jean-Claude, tout est une question de contexte. Et évidemment, si tu le prends au deuxième degré, moi, je trouve ça plutôt drôle. Et
puis, oui, il n'y a pas de fil conducteur,
quand même. Non, ça va dans tous les sens, c'est très fouillis.
C'est qu'une suite d'informations
un peu marrantes.
Mais c'est
aussi un livre sur l'oubli qui se souvient, effectivement, de telle hécatombe, des carnages dans les écoles, de cette violence que les Américains, cette violence inouïe qu'ils ont collée à la peau, de tous les crimes non élucidés, et que quand tu vois les lois, ils parlent de la loi sur la restriction de l'immigration, sur la loi des origines nationales, tu te dis que Trump, enfin... Voilà, est un enfant de cœur à côté de tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté de mise en perspective, en tout cas, des choses.
En tout cas, c'est le vrai livre de l'été.
C'est pas bien de dire ça.
Non, mais c'est pas grave, il les remboursera en septembre.
Donc vous écrivez vos courriers à La Croix.
Alors, ce que je voudrais, c'est que tu témoignes de l'engouement qu'auront les auditeurs du Masque et la Plume pour ce livre. Et je ne te demande pas de lire les lettres où ils me remercieront, mais juste de témoigner qu'ils ont aimé ce livre. Voilà.
Allez, c'est l'été où tout arriva. 1927, l'Amérique en folie, de Bill Bryson, et c'est aux éditions Payot. On a le temps, en ce 12 août, de conseiller des livres pour la plage, pour la montagne, pour tout ce que vous voulez, pour la mer peut-être aussi. Et on va commencer avec Jean-Claude.
Dans 4 jours, sort un livre tout à fait formidable, mais formidable au sens terrifiant, de Vanessa Schneider sur Maria Schneider. Quoi? Tu t'appelais Maria Schneider.
Sur sa cousine, en
voilà,
fait.
Voilà, Vanessa
qui
Schneider.
Qui était un livre de la rentrée littéraire.
Oui, qui est la rentrée, mais qui sera vendu dans 4 jours.
Qui se présente comme un roman qui ne l'est pas vraiment.
Non, mais qui a de tout. C'est-à-dire qu'il y a une part de roman biographique, il y a une part d'enquête, il y a une part. C'est un geste de compassion, c'est une lettre qu'envoie Vanessa Schneider à Maria Schneider. C'est un livre terrible, terrible, puisque tout le monde
je
sait.
Je rappelle que c'est le dernier tango.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est pareil, plus, c'est et qu'après, sa vie a été tragique.
Voilà, hein. Et c'est plus que le dernier tango, en fait. C'est une scène du dernier tango, dont on sait aujourd'hui par Bertolucci lui-même que ça a été une scène de viol filmée, où là, vraiment, il lui a volé ça, et qu'elle ne s'en est jamais remise, et qu'à partir de cette scène-là absolument. Et de ce film, cette fille s'est cramée, est partie dans la drogue.
Et elle est morte très jeune. Hein.
Elle est morte jeune. Elle est morte, d'ailleurs, dans un isolement. C'est un livre absolument terrible, très bien écrit. C'est une très belle évocation, je vous le recommande vraiment.
Et c'est chez Grasset.
C'est chez Grasset.
Le conseil, attention, c'est dans 4 jours. Hein. Le conseil
de bien pire encore, Patricia. C'est pas du tout un livre d'été, mais il faut profiter justement du soleil et des vacances pour lire ça. Moi, j'avais jamais lu Charlotte Delbault. Je dois dire que je n'avais jamais lu.
C'est
absolument magnifique.
C'est pas,
aucun de nous ne reviendra. C'est le premier de la trilogie qui est ressorti, enfin qui a été republié par Minuit. C'était l'assistante de Louis Jouvet. Elle est en Amérique latine avec Jouvet pour une tournée. Elle apprend ce qui se passe en Europe. Elle revient et elle fait partie du seul convoi de déportés politiques qui a fini à Auschwitz. Il y avait 230 femmes. 49 ont survécu. Elle est restée là-bas 27 mois. Elle a monté à Noël 1943, le malade imaginaire. Tout de suite, la libération, dès 46, elle s'est mise à écrire. C'est absolument époustouflant. Il y a un souffle poétique, des descriptions d'une puissance.
Et il y a plusieurs livres qui ont paru sur Charlotte Delbault, oui. Dont un l'année dernière.
Elle est morte il n'y a pas très très longtemps. Elle est morte il y a 20 ans, 30 ans.
Mon conseil, c'est un livre qui sortira dans 10 jours. Chez Stock, qui s'intitule « Avec toutes mes sympathies, une femme qui est très douée pour le bonheur et pour lire les livres des autres, prend la plume pour la première fois. Elle raconte non pas pourquoi, mais comment son jeune frère adoré, Alex, a mis fin à ses jours. C'était en 2015, en se jetant du pont Jacques Cartier. À Montréal, je la cite, j'écris pour chérir mon frère mort, j'écris pour imprimer sur une page blanche son sourire lumineux et son dernier cri, pour dire ce crime dont il est à la fois la victime et le coupable. Et c'était ce garçon, Alexandre de Lamberterie, le frère de notre Olivia, dont le livre est, faut-il vraiment le préciser, absolument bouleversant. Il paraît chez Stock. Il faudra attendre 10 jours pour pouvoir le lire. Le conseil de Frédéric.
Je crois qu'Olivia aurait du mal à parler, là. Alors, c'est le noble art de la brouille, qui est un petit essai très rigolo de Mathias Debureau, publié chez Alary Éditions. Donc, se brouiller avec ses amis, c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup faire ici, au Masque. Et c'est un sujet délicat qui est moins traité que la rupture amoureuse. Parce que larguer un pote, c'est très compliqué.
Et en vacances, c'est vachement sympa, parce qu'on est souvent en groupe, et ça, c'est sympa.
Oui,
ça,
c'est
ça
génial.
Ça peut faire des soirées animées.
C'est super, voilà. Et donc, à partir de célèbres amitiés, Dali et Buñuel qui se sont fâchés, Sartre et Camus, comment ils se sont fâchés, Truffaut et Godard, etc., ce livre, vraiment très, très drôle, expose comment la brouille est un art. Et il y a cette phrase de Robert de Montesquieu, l'amitié n'est qu'une étape dans la brouille.
Et c'est
beaucoup. C'est chez Alary.
Alary, le conseil d'Olivia.
Un tout petit livre, j'ai choisi le plus petit livre que j'ai trouvé, qui est merveilleux, de François Morel, qui s'appelle « C'est aujourd'hui que je vous aime ». Qui compte comment tous les hommes sont amoureux d'Isabelle Samain. Tous les hommes, en fait, ce sont des petits hommes, ils ont 12 ans. J'ai trouvé que c'était à mi-chemin entre L'argent de poche de François Truffaut et L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut. C'est aux éditions du Sonneur et c'est ravissant.
Et profitez-en pour relire tous les livres de François Morel, y compris Me, qui est un grand classique.
Oui, c'est vrai, oui.
Un grand classique. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au Sacha Guitry et la Technique, je les remercie, Julien Douminc, Tar Bouklifa, Emmanuel Armingue, la réalisation était signée Didier Lagarde et c'était même sa dernière puisque Didier a choisi de quitter Radio France et de prendre le bon temps qu'il mérite, on le comprend d'ailleurs, mais comment ne pas regretter celui qui fut là-haut en régie, le remarquable orchestrateur du Masque et la Plume. Cher Didier, sois heureux,
Le masque et la plume te remercient beaucoup et moi, je t'embrasse fort. Le prochain enregistrement du masque et la plume, c'est le jeudi 16 août. Jeudi 16 août à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au film et l'autre à la rentrée littéraire. Dans une semaine, on parle de cinéma, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.